Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, beaucoup d'actualités hein, et beaucoup d'activités ces dernières semaines. Notamment, là, vous sortez à l'instant pour parler de l'actualité immédiate de la présentation de l'Observatoire des communes. C'est un instrument intéressant, important pour les maires que vous êtes.
Oui, parce que d'abord, un, c'est organisé par un prêteur qui est l'AFD, et en même temps, c'est aussi un moment d'échange, avec les maires. Ça veut dire que l'AFD a fait des études, voilà, comme elle le fait tous les ans, sur la situation des communes, sur la situation financière en particulier. Et donc, voilà, on apprend quand même des choses. Et je pense que tous les ans, c'est un passage obligé parce que ça nous donne un espace pour nous exprimer et puis pour partager avec l'AFD les problématiques. En particulier financières, qui sont celles des communes, puisqu'on est face à un prêteur.
Alors, je disais beaucoup d'actualités. Hein. Vous êtes allé au congrès des maires récemment, nous en parlerons. L'actualité récente, c'est la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Il est parti dimanche dernier, vous l'avez rencontré, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez de sa visite?
Alors, un, je ne le connaissais pas, donc j'ai appris comme tout le monde à le connaître.
Vous l'aviez croisé un peu à l'Assemblée nationale.
Oui, absolument, mais j'avais pas eu l'occasion de pouvoir parler avec lui comme j'ai pu le faire avec d'autres. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement à l'écoute. D'abord, ce qui a bluffé tout le monde, c'est son côté. Il a beaucoup d'humilité, son côté très modeste. C'est le fait qu'il soit maire aussi, et donc il est plein d'empathie, il va systématiquement vers les gens dire bonjour. Moi, j'ai vu quand il est arrivé en mairie, il y avait le personnel qui était là, il a consacré du temps pour aller parler avec eux. Donc on voit bien que ce côté maire est très très présent, chez lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, qui cherche, et c'est tout à fait normal, à comprendre un peu plus la situation, et je crois qu'il est bien passé, partout, que ce soit du côté des loyalistes ou de la société civile, voire du côté des indépendantistes. Tout le travail reste à faire maintenant, mais au bout d'une semaine, je crois qu'il a compris beaucoup de choses.
Alors, ce qu'on retient notamment, c'est que il a accepté le calendrier des indépendantistes qui souhaitaient commencer les bilatérales après leur congrès, celui du FLNK, celui du Congrès populaire. Est-ce qu'il a eu raison d'accepter ce différé? Et est-ce que ça va suffire selon vous? Est-ce que les indépendantistes reviennent effectivement autour de la table?
Non, mais je crois qu'il a été très clair dans la réponse qui a été donnée, qui vous a été donnée à vous et comme à d'autres journalistes, c'est de dire que le temps qui est devant nous, il est finalement pas très long. Il nous amène avant les élections provinciales. Mais à l'intérieur de ce temps qui n'est pas très long, il y a aussi un autre temps qu'on doit donner aux uns et aux autres pour engager plus en amont, plus en avant plutôt, les discussions. Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que... Quand on va engager la Nouvelle-Calédonie dans un processus, je l'espère, à long terme, qui nous permettra à tous de pouvoir vivre ici en paix, consacrer deux mois de plus à laisser à la fois le temps d'écoute qu'il a eu ici, le temps de discussion qu'il a pu avoir avec les uns et les autres, une espèce de maturité pour amener tout le monde à la table des discussions. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'impatience chez les gens.
Mais vous la ressentez,
c'est un petit peu normal qu'il y ait cette impatience, mais je crois que dans le temps qui nous est imparti pour discuter, eh bien, il y a aussi de savoir donner du temps au temps. Mais il a été très très clair. Il a dit je vais donner du temps au temps. Je vais attendre jusqu'au mois de janvier que le FNLKS puisse avoir son congrès, et ensuite j'engage les bilatérales. Alors elles se feront ici ou elles se feront à Paris. Mais je crois qu'il était important aussi parce que le temps a aussi son importance selon du côté où on se place.
Et vous pensez que les indépendantistes, ce qu'on peut en attendre ou entendre dans leurs quelques déclarations, ont apprécié cette attitude et qu'ils vont revenir effectivement autour de la table? Vous pensez qu'on va pouvoir ouvrir enfin ces discussions sur l'avenir?
En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a des ministres par expérience qui sont passés ici, qui ont dit des choses, le temps du dialogue est arrivé, tout le monde a dit oui, et puis après tout le monde a dit non. on aurait pu avoir le même scénario au sortir de la visite de Gérald Darmanin, pour dire tout va bien ici, j'ai écouté tout le monde, tout le monde est d'accord. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit tout le monde est d'accord. Mais les indépendantistes ne se sont pas exprimés depuis, mais si j'écoute un membre du gouvernement qui était à la télévision dimanche soir, c'est de dire qu'ils étaient toujours dans le temps du dialogue. Ils auraient pu dire autre chose. Donc non, mais je pense qu'il est bien passé partout. Voilà, c'est quelqu'un de sympathique et surtout qui a donné du temps à l'écoute. Et ça, c'est important.
Alors, je le disais, vous étiez au Congrès des maires, mais auparavant, vous étiez également à la Convention des partenaires qui s'est réunie à Matignon le 28 octobre, sous la présidence de la Première ministre. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette réunion? C'était bien pour donner effectivement une impulsion. On a dit que c'était un peu le lancement des discussions, même si les indépendantistes étaient absents. La mise en place d'un calendrier, d'une méthode, ça vous semble participer effectivement au lancement des discussions?
Oui, parce qu'il fallait il fallait le faire. Alors on peut déplorer que les indépendantistes n'aient pas été autour de la table, sauf le président des îles, mais ça a permis au ministre et à la première ministre de d'écouter, puisqu'il y a eu des bilatérales avec les loyalistes. Ça a permis là encore un temps d'échange, et puis ça a permis surtout de mettre un calendrier en place, et ce calendrier est absolument nécessaire. On n'est pas dans le flou artistique. On sait aujourd'hui que on a du temps, et ce temps il va falloir maintenant l'utiliser à bon escient. Voilà, il y a un calendrier, il va falloir s'y coller.
Alors vous souhaitiez que les maires soient représentés à cette convention des partenaires, et vous y étiez. Le ministre de l'Intérieur des Outre-mer a reçu également, il y a une séquence spéciale où il a reçu tous les maires de Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez bien sûr rencontré à la mairie de Nouméa également. Et votre leitmotiv, c'est les maires ne doivent pas être les oubliés de l'histoire et l'oublié des prochains accords. Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer? Pourquoi est-ce que vous tenez à ce point-là? Est-ce qu'ils soient associés aux discussions, à la définition de l'avenir?
Parce que c'est vrai. Quand j'ai dit que les maires avaient été oubliés de l'histoire, les précédents accords, l'accord de Nouméa en particulier, on a fait totalement abstraction d'une consultation des maires. Les maires sont des acteurs de terrain, ils ont leur mot à dire, ils ont des remontées directes de leurs administrés, et donc ils sont au courant d'un certain nombre de choses, et en particulier de la température ambiante. Alors si on dit ça aujourd'hui, on sait qu'il y a un caractère relativement anxiogène par rapport à l'avenir du territoire, il est indispensable, en tout cas c'est la volonté de l'ensemble des maires. Qu'on soit d'une association, l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, une association avec plutôt une tendance indépendantiste, et puis l'association française des maires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les maires doivent être entendus. Et moi, je l'avais dit à plusieurs reprises au commissaire, et je l'avais fait savoir à Paris, et ça a été l'occasion quand je l'ai eu en tête-à-tête dans mon bureau, mais aussi avec cette réunion qu'il a organisée avec les maires, où les maires des deux associations étaient là.
Et qu'est-ce que vous leur avez dit à cette occasion? Quel message que vous transmettez exactement sur eux?
Associez-nous aux futures discussions sur l'avenir institutionnel. Il y a des ateliers qui ont commencé à se mettre en place. On a été invité, quand le ministre était là, sur un atelier sur le foncier et sur la souveraineté alimentaire. Il y aura d'autres ateliers qui seront mis en place, et avec des critères différents, sur des thématiques différentes. Et donc, il appartiendra à l'État. Et là, on l'a fait savoir que sur l'avenir institutionnel en particulier, les maires seront là, parce que nous avons des choses à dire. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie doit être construit entre tous. Et moi, je refuse que les politiques ou les groupes aujourd'hui veulent une confiscation de ces discussions. Mais à quel titre? Est-ce que nous, les maires, qui faisons de la politique, alors on va pas dire politicienne, parce qu'on essaie de s'en dégager les uns et les autres, même si au départ on est tous avec des tendances politiques et où on a tous peut-être eu à siéger au congrès ou dans les provinces. Aujourd'hui, moi je considère qu'être un bon maire, c'est faire la politique de la ville et pas faire la politique politicienne. Mais si on fait de la politique, que ce soit la politique de la ville, les maires ont toute leur place, toute leur place au sein de ces discussions. Et on a eu de la chance, je le répète, d'avoir un maire en face de nous qui a très bien compris ça. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on n'est pas prêt à lâcher le morceau parce qu'on y sera.
Vous souhaitez que chacune des associations, par exemple, désigne un représentant dans chacun des groupes de travail?
Oui,
par
un ou deux représentants, évidemment. On ne va pas tous, il y a 33 communes, donc après vous ne pouvez pas avoir tout plein de gens autour de la table parce que... Après, ça fait café du commerce. Donc, il y aura des désignations qui seront faites, mais en tout cas, je pense que le message a été entendu.
Vous avez également participé donc au congrès des maires de France. Ça, c'est un rendez-vous un peu incontournable. C'est important, là aussi, que les maires de Nouvelle-Calédonie soient représentés à ce rendez-vous annuel. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, en fait.
Alors, c'est un espace de dialogue entre les maires qui permet aux maires, en particulier des Outre-mer, de pouvoir aller à la rencontre des maires de France. C'est des tables rondes qui sont organisées. Il y en a eu une sur la sécurité, le jour où il y a à Issy-les-Moulineaux, avec les maires d'Outre-mer. Il y a eu aussi des ateliers cette même journée sur le logement et le logement social. Comment les maires... qui sont issus de l'outre-mer voient les choses en termes de sécurité, quels sont leurs problèmes, comment on entend développer le logement, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire demain. Donc c'est vraiment des temps d'échange extrêmement intéressants et qui permet d'avoir une autre vision, ou alors de se dire in fine, ben finalement nos problèmes sont presque les mêmes, et si on parle de problèmes financiers, sont presque les mêmes. Si vous parlez de sécurité, alors on a aussi bien des problèmes. C'est extrêmement intéressant de voir que ici, on peut parler d'insécurité, on peut parler de délinquance, etc. On peut parler de violence conjugale. Mais quand on voit ce qui se passe dans le reste de l'outre-mer, en particulier à Mayotte, où la situation est extrêmement dramatique, quand on parle de la Martinique ou de la Guadeloupe aussi, où la grande criminalité a fait son entrée et où on se tue dans la rue, je veux dire que ici, on a de la délinquance, il faut pas minorer ce qui se passe, mais en tout cas, on est quand même avec des problèmes qui sont à un degré en dessous de ce qu'on peut voir ailleurs dans l'outre-mer. Donc c'est intéressant d'échanger, c'était intéressant de partager, et donc je pense que c'est un moment incontournable parce que voilà, ça nous permet aussi de pouvoir rencontrer, parce qu'on va au Sénat, on va à l'Assemblée, voilà, et de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc c'est formateur.
Par rapport aux communes de métropole, est-ce que on trouve quand même des points communs, ou est-ce que c'est vraiment des problématiques complètement différentes entre les communes de l'outre-mer et les communes de métropole? Là aussi, on pense en matière d'insécurité. Il y a des communes en métropole où l'insécurité est sûrement pire que ce qu'elle est.
Bien sûr. Donc on partage et on voit bien. Et puis ça fait prendre conscience aussi à l'État, qui reste compétent en termes de sécurité publique. Et bien ça fait aussi prendre conscience à l'État, parce qu'on peut développer un petit peu ce qui se passe dans nos communes et essayer d'avancer ensemble. Oui, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un passage obligé.
Vous apprenez des choses, vous rapportez des choses qui concrètement peuvent être ensuite mises en œuvre dans les communes de Nouvelle-Calédonie, en aménagement, en lutte contre le réchauffement climatique, dans divers domaines. Il y a des idées que vous pouvez prendre sur place.
Oui, c'est un point important. Aussi, dans les échanges qu'on a pu avoir, on a pu parler de problématiques d'érosion côtière en particulier, où on a les communes, par exemple, Ouvéa, même si Nouméa est touchée, mais on a Ouvéa aujourd'hui avec des populations qui sont au bord de mer, qui sont obligées de reculer dans les terres, qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Les problématiques d'érosion dans le monde entier, elles sont là, donc... Voilà. Et puis en même temps que vous êtes au congrès des maires, vous pouvez avoir des rendez-vous dans les ministères pour aller exposer vos problèmes. Voilà. Donc c'est intéressant.
Alors comment elle se porte, la commune calédonienne? On en parlait un peu au tout début de cet entretien avec l'observatoire refait par l'AFD. Vous parliez des problèmes financiers qu'ont les autres communes françaises dans leur ensemble. Les communes calédoniennes, elles en sont où aujourd'hui? On sait que le gouvernement va reporter le vote de son budget en mars. Tout ça, ça a des conséquences pour vous?
Non, ça n'a pas de conséquences parce que on a déjà vu des budgets qui étaient votés en mars. Et donc, ça fonctionne avec les 12e proviseurs, parce que vous êtes bien obligé d'assumer les ressources des communes pendant le mois de janvier, le mois de février et jusqu'en mars que le budget soit voté. Les communes, elles sont extrêmement dépendantes aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont dépendantes financièrement. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que même si on a cet effet cliqué, vous le savez, pour les communes où elles peuvent pas toucher moins que l'année dernière, on voit bien que à partir du moment où les ressources financières sont en diminution, ça a un impact sur les communes. Et ce matin, c'était intéressant à l'Observatoire des communes, fait par l'AFD, de voir qu'effectivement, eh bien, il y a eu des diminutions. Donc les maires sont en première ligne parce qu'ils sont obligés. D'abord, les maires sont des investisseurs, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les premières collectivités qui investissent et qui font travailler les entreprises calédoniennes. Ça aussi, c'est un point important. Mais les maires, comme ils ont de moins en moins de ressources, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai développé ce matin, mais que j'ai dit chez le haut-commissaire dans un séminaire des maires il y a deux jours, quand on nous dit la Nouvelle-Calédonie est exsangue, la Nouvelle-Calédonie n'a plus d'argent, mais cette année, pour l'année 2023, il y a plus de ressources. Pourquoi il y a plus de ressources? Parce que c'est l'inflation qui a amené plus de ressources. Alors, on ne peut pas se glorifier de ça, parce qu'en même temps qu'on parle d'inflation, c'est aussi désastreux pour un certain nombre de ménages qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Mais puisqu'il va y avoir plus d'argent, on demande aux communes aujourd'hui, en disant, mais vous savez, la Nouvelle-Calédonie a beaucoup emprunté, et donc il faut payer la dette. Et là, on va commencer à payer. Donc, je vais prendre une expression que tout le monde connaît. Alors, les communes, vous allez faire joli votre cœur, là. Et puis, on ne va pas vous augmenter vos dotations à travers le FIP, parce que on va les laisser à l'étal, parce que il faut qu'on ait une marge de manœuvre pour payer la dette. Et d'autre part, la Nouvelle-Calédonie est à la recherche de 17 milliards pour son budget. Mais jusqu'à quand les communes vont pouvoir être en souffrance par rapport à l'investissement qu'elles doivent faire? Je rappelle une chose aussi, et c'est ce que j'ai dit aux membres du gouvernement et ce que j'ai redit ce matin. Les communes, depuis un certain nombre d'années, qui sont en souffrance financière, elles ont fait des efforts drastiques chez elles. C'est le cas de Nouméa, mais le cas d'un certain nombre de communes, en particulier sur l'agglo, mais d'autres communes aussi, où on a fait des efforts drastiques, on a demandé des efforts à nos services tous les ans pour leur dire « vous allez baisser ce que vous allez demander de 2%, de 3%. » Ça fait 4 ans maintenant qu'on le fait sur la commune de Nouméa. Ça veut dire qu'on a tellement demandé au service d'efforts que maintenant on est arrivé à l'os, il n'y a plus de viande dessus. Et donc, s'il n'y a plus de viande dessus, ça veut dire qu'à un moment donné, on va altérer le service public. Et quand on est une grosse commune comme Nouméa, on a besoin d'avoir des gens qui travaillent, on a besoin d'avoir des gens qui font des études et on a besoin de développer des projets et faire des investissements. Sauf que quand la Nouvelle-Calédonie nous dit ça, les ressources diminuent, en même temps on prend des dispositions, c'est le cas de la CLR, c'est le cas de l'intégration des contractuels, c'est les 3,5% là qui ne sont pas encore décidés pour l'augmentation du point d'indice. Si je prends que la commune de Nouméa, eh bien tout ça va nous coûter 550 millions par an en plus. Donc quand vous faites des efforts, que depuis 3 ans ou 4 ans, vous avez zéro création d'emploi, que vous ne renouvelez pas les départs à la retraite, que vous faites des efforts incroyables au niveau des services, et qu'en plus on vient vous charger la mule en termes de fonctionnement, ça veut dire que quand vous faites des efforts dans une commune, sur votre fonctionnement, c'est pour essayer de rattraper une marge de manœuvre pour avoir plus de latitude pour faire des investissements. Or là, j'ai employé une expression ou un mot que tout le monde comprend, là on vient plomber ce que vous avez développé, tous les efforts que vous avez faits parce que la Nouvelle-Calédonie va pas bien. Donc, à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table. Je pense que c'est important. C'est ce que j'ai laissé entendre. Et en particulier avec les maires de l'autre association. On parle beaucoup de fiscalité pour les communes.
Ça a été développé. Communale, oui.
Ça a été développé ce matin. Je dis attention à ce qu'on va faire. Parce que si on développe une fiscalité communale à l'instar de ce que font les communes métropolitaines, ça veut dire qu'on va lever de l'impôt. Alors, en plus de l'impôt, et où, dans ces séquences ministérielles, où on entend, mais attendez les petits, vous êtes bien gentils, mais il va falloir vous prendre en charge. Ça veut dire que demain, il va falloir corser la fiscalité. Donc, si on donne toute latitude aux maires pour pouvoir lever des impôts, ça veut dire quoi? Quel impôt? Une taxe d'habitation, par exemple. Je prends juste un exemple. Ça veut dire que demain, les maires vont dire, maintenant, vous voyez, vous allez payer parce que vous avez une maison, ça s'appelle la taxe d'habitation. Ça va venir en plus de la fiscalité auquel tout le monde s'attend de la part du gouvernement, puisqu'il faut bien trouver des sous. Donc on va aller jusqu'où comme ça? Donc moi je dis attention à ce qu'on fait, réfléchissons, on va pas partir la tête dans le mur comme ça, parce que moi je me mets à la place des populations. Il faut bien peut-être lever un impôt, mais à condition qu'on ait un avenir serein dans ce pays. Voilà. On peut pas demander aux gens de payer, alors qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tout le monde va comprendre ça.
Alors ce séminaire des maires qu'il y avait au commissariat, ça s'est conclu comment finalement? Vous avez une visibilité sur les dotations que vous aurez en 2023, ou est-ce que tout est encore sur la table et que vous allez essayer d'obtenir davantage de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est encore possible?
Le membre du gouvernement en charge des communes nous a dit qu'il y avait un séminaire qui allait se mettre en place entre le 19 et le 23 décembre. Ce sera sans doute l'occasion de faire savoir au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'on comprend bien les problèmes. Mais moi je dis, les communes ont fait des efforts. On fait des efforts. Toutes. Alors quand le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je suis un peu cash, quand le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aura fait les mêmes efforts, alors peut-être qu'on sera sur la même longueur d'onde. Moi, je comprends les problèmes, mais ces problèmes, ils datent pas d'hier. Il faut remonter à plusieurs gouvernements successifs pour savoir qu'on a laissé les choses un peu aller à la dérive. Voilà. Et donc, on a fait des prêts. On l'a vu hier au Congrès, avec une motion préjudicielle, où des choses ont été dites. Et donc, la situation qui a été annoncée, elle est tout sauf brillante. Voilà. Donc, la participation, elle est forte, elle doit se faire, mais elle doit se faire partout. Et quand on sera tous sur la même longueur d'onde, alors à ce moment-là, on pourra discuter. Mais en tout cas, on va faire savoir aujourd'hui au gouvernement que les maires et l'ensemble des maires, les deux associations, on n'a pas envie de faire joli notre cœur si les efforts ne sont pas faits de part et d'autre.
Et la décision d'impôt levé par les communes, ça pourrait être pris par les deux associations de maires? C'est une discussion qui va se poursuivre?
Alors ça, je ne peux pas anticiper sur une décision, parce que moi je propose à l'autre association qu'on se rencontre bien plus souvent, qu'on puisse parler de nos problèmes d'érosion, qu'on puisse parler de la problématique de l'eau, qu'on puisse parler des finances communales, qu'on puisse parler éventuellement d'impôts nouveaux qui pourraient être donnés aux communes de la Nouvelle-Calédonie, tout en sachant que si on revient sur le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ça devra impérativement passer par l'Assemblée nationale, hein, pour amender le texte. Ça peut pas se faire ici, et que tout ça doit rentrer dans un schéma cohérent qui est celui de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Donc, si on parle d'avenir institutionnel, alors on doit aussi parler des communes et voir de quelle manière on peut les faire évoluer. Mais ça sera l'objet de discussions qu'on aura entre nous.
D'où la volonté que les maires soient présents dans ces discussions.
Absolument. Vous voyez que c'est intéressant à plus d'un titre qu'ils soient là.
Vous parliez de l'érosion, on en parlait, des problèmes, des aléas climatiques. L'érosion des côtes, c'est aussi le cas de la ville de Nouméa.
Bien sûr.
On en est où? Donc l'un des grands travaux de cette mandature, c'était redessiner le trait de côte de Lanzvata. Ça y est, c'est
tout. Mais il fallait faire face à un problème, tout le monde l'a bien compris. Il fallait faire face à un problème d'érosion. Quand on voit comment la plage et les derniers phénomènes climatiques qu'on a eus ont endommagé la plage. Il y a eu un recul à certains endroits de 7 mètres. Donc voilà. Donc il fallait faire ça. On s'est entouré de toutes les précautions, vous imaginez bien, les études faites ici. Moi j'ai voulu une contre-expertise faite en métropole par un cabinet de génie côtier qui intervient dans le monde entier. Donc voilà, toutes les précautions ont été prises. Il fallait absolument repousser le trait de côte vers la terre, c'est-à-dire vers la route. Donc les travaux vont bon train. Il y en a effectivement, vous pourriez me poser la question, il y en a qui sont pas contents, et effectivement, mais
on a l'impression que l'opposition est moins forte qu'elle l'a été à un moment, non?
Il y a eu une opposition assez importante, et là il y a une association qui s'est montée. Ils ont envie un petit peu d'en découdre aussi, mais vous savez, les travaux sont tellement engagés que je ne peux pas faire marche arrière. Voilà.
Le calendrier est tenu pour l'instant. Ouais.
Le calendrier est tenu.
Donc ce sera fini quand?
Alors, ce sera fini fin 2023, mi-2024. Ce sont des travaux titanesques.
Absolument. Quels sont les autres grands travaux que vous avez prévus? Vous avez les moyens encore? On parlait des problèmes financiers et communes, mais de leur nécessité d'investir et du fait qu'elles investissaient beaucoup. Vous avez prévu d'autres travaux?
Alors, sur ces grands travaux, moi j'ai envie de dire quelque chose que j'ai dit ce matin et que je répète à l'envie, même si... les finances de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas au beau fixe et qu'il y a des répercussions sur les communes. On a quand même l'État qui est extrêmement présent dans tout ce qui est investissement au travers des contrats. Et donc, eh bien, grâce à ça, on peut encore avancer puisqu'on a des subventions. On a aussi, dans le cas des contrats, des subventions qui nous viennent parce que ça se fait aussi conjointement avec avec la province sud en ce qui concerne la ville de Nouméa. Mais les autres provinces participent aussi avec l'État au financement. Donc, on a des grands travaux, la poursuite de travaux qui ont déjà commencé, qui sont des gros travaux d'assainissement sur le quartier latin, c'est le cas de la rue Porcheron. La rue Brun avait été faite, il fallait qu'on continue, et donc il fallait, voilà, on est dedans. La promenade de Lanzvata, bien évidemment, on vient d'en parler. C'est la route de Lanzvata aussi, où... celle qui mène à partir de la salle Omnisport et qui mène jusqu'à la plage. Là, il y a des gros travaux d'assainissement. Et puis, on a réussi à acheter 4 mètres à l'IRD. Et donc, on va élargir la voirie parce qu'aujourd'hui, c'est relativement accidentogène. On a récupéré 4 mètres à l'État. Et donc là, les travaux ont commencé, mais ça nous permet de pouvoir poser le réseau sur cette route, mais aussi on va faire les réseaux pour amener sur les rues qui sont la rue du Tabou, la rue Béninus, etc.
Et vous le faites conjointement avec Lanzvata, comme ça, ça fait un gros chantier,
mais c'est aussi pour assainir les autres baignades. Hein. Il faut pas quand même négliger ça. Donc on est dessus. Il y a la requalification, tout le monde l'a vu, des terre-pleins de l'avenue de la Victoire. Là, on dit, oui, la garde est une spécialiste pour arracher les arbres. Non, je ne suis pas une spécialiste pour arracher les arbres. Il y a des arbres, d'autres arbres qui vont être plantés. Mais on était obligé de les enlever parce qu'on les a tous fait radiographer. Et donc, on voit bien que les flamboyants qui étaient là sont tous termités. Et donc, et vous voyez bien les cocotiers aussi qui sont prêts à tomber. Donc, voilà, il fallait faire, on le fait. Il y a la réhabilitation aussi de travaux qui ont déjà commencé de la France australe, de ce beau bâtiment qui demain logera les services de la culture. Il y a la réhabilitation de l'état-major en hôtel de police. Il y a la poursuite de l'éclairage LED dans toute la ville, et ça sera fini en 2025. Il y a la poursuite des programmes du centre-ville, et puis enfin, dans les nouveaux travaux, quand même, quand vous partez d'un magasin, je peux faire la publicité, mais chez Florence ou Trianon, pour aller jusqu'à chez Michel-Ange, voire plus loin, là, vous n'avez pratiquement pas de trottoir. Et donc, on va faire un trottoir. Voilà, tout le long, pour que ce soit agréable et que les gens puissent marcher. Donc, c'est aussi l'aménagement des cycles vélo et piétons qui vont du Trianon jusqu'à Enghien. Voilà, ça c'était programmé. On a eu les fonds de l'État.
Il y a encore beaucoup de travaux.
L'aménagement de Bir Hakeim, voilà. Donc tout plein de choses. Il y a la réhabilitation aussi de la polyclinique, mais qui rentre dans un ensemble d'aménagement global, tant de la route de Lanzvata que la promenade de Lanzvata, où là on va conserver les bâtiments. On va en conserver un, et puis on va conserver les structures des autres, et puis ça va être un moment ou un espace qui va être dédié aussi à l'aspect patrimonial, historique de la Nouvelle-Calédonie, où on expliquera eh bien ce qu'il y avait avant, les Américains, la polyclinique où beaucoup de Nouméens sont nés, dont moi. Voilà, donc plein de choses, plein de travaux, et donc ben voilà, vous savez, pour faire tous ces travaux, il faut faire des économies par ailleurs, pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, pour pouvoir réaliser tout ça.
Les économies, vous les prenez où, alors ?
Eh bien, les économies, on les a pris sur les services, on renouvelle pas un certain nombre de postes, voilà. On réorganise les services pour être plus rationnel. Voilà, ça demande des efforts tous les jours.
On va terminer avec une note un peu plus festive.
Oui.
C'est les fêtes de fin d'année. On sait que vous aimez bien ça, la féerie de Noël, ça commence quand ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous proposez aux Nouméens cette année ?
Alors, on a un petit peu de soucis avec les spectacles, parce que vous savez, tous les ans, on commence des spectacles gratuits pour les enfants. Au kiosque à musique, ça a commencé depuis le 1er décembre, on a été obligé d'en annuler 3.
À cause de la météo,
donc moi j'y peux rien, là j'ai pas la baguette magique, mais en tout cas je passe un message au Père Noël peut-être, pour qu'il nous laisse tranquille pendant toute cette période de Noël. Donc les spectacles ont commencé, la féerie de Noël, c'est-à-dire l'ensemble des places illuminées, ça commence demain soir. J'invite les Nouméens à venir à l'inauguration, ou donner le top départ de cette féerie, qui va durer jusqu'au 31 décembre. Et puis l'arrivée du Père Noël dans cette séquence le 24 décembre, bien évidemment, qui arrivera à la Fontaine Céleste. Je lui remettrai les clés de la ville, de façon à ce qu'il puisse distribuer ses cadeaux à tout le monde. Et puis, ça se terminera avec le feu d'artifice le 1er janvier, à 20h. Voilà. On aura eu de la chance cette année d'en avoir deux, puisque j'avais souhaité, comme avec le Covid, on n'avait pas pu faire les feux d'artifice, eh bien, que si c'était possible, on en ferait un au 14 juillet. J'avais dit, on va mettre les sous de côté, de façon à ce que on puisse au moins donner aux Nouméens un feu d'artifice au 14 juillet. On l'a fait. Et puis, on en fera un autre pour le 1er janvier. Ça nous permet de pouvoir rentrer dans cette nouvelle année avec enthousiasme.
Il sera tiré à la baie de Sainte-Marie comme la dernière fois.
Oui, c'est le meilleur spot. Et c'est toujours un moment, parce que franchement, on n'a pas à rougir de ce feu d'artifice. Il est magnifique et il attire de plus en plus de monde. C'est 40 000 personnes sur un même site, c'est extraordinaire.
Eh bien, nous suivrons tout ça avec grand plaisir. Merci Sonia Lagarde d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.